Eh bien, bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux à cette lecture d'Alban Lefranc, que nous sommes heureux d'accueillir ici à la librairie Mola, à l'occasion de l'adaptation et de la mise en scène par Laurence de la Fuente à la Manufacture Atlantique d'un précédent texte qui s'appelle « Vous n'étiez pas là », qui va se jouer ce soir et demain soir à la Manufacture Atlantique. Nous sommes donc tous réunis ici pour écouter une lecture du dernier texte d'Alban Lefranc qui s'appelle « Si les bouches se ferment ». Voilà, Alban Lefranc est un jeune auteur. Hein, quand on n'a pas encore 40 ans, on est encore jeune. Et il va nous...
Ça va pas tarder.
C'est pour bientôt, ouais. La vieillesse. Et donc on va procéder, si vous voulez bien, à quelques extraits du livre. Et puis je vous invite après à rester avec nous pour en discuter un petit moment. Et voilà. Bonne lecture.
Bon, bonsoir. Je vais peut-être dire quelques mots du livre. Je ne sais pas si tout le monde sait de quoi il s'agit. Non. Mais du coup, c'est le portrait d'un... En quelques mots, c'est le portrait d'un écrivain allemand des années 60 et 70 qui est le fils d'un... d'un poète nazi, d'un poète qui était même associé à toute la l'intelligentsia qui régnait en Allemagne pendant la période nazie. Et donc le fils a ce lourd héritage à porter. C'est un personnage historique, hein, Bernhard Vesper. Et il va progressivement sombrer sous le poids de cette faute, de cette culpabilité. Et avant de sombrer tout à fait, de se suicider, il va être le compagnon de Gudrun Enslin, une des membres de la fraction Armée Rouge. Voilà, c'est juste pour planter un petit peu le décor. Et je vais lire des passages du début. Voilà. Qui peut-être du coup vous donneront une petite idée. On raconte que Bernhard Vesper, fils de Will Vesper, barde nazi qui fit brûler des livres, connut Gudrun Enslin, future icône et gérie de la fraction Armée Rouge, qui eut un fils avec elle, écrivit un livre et se suicida. On raconte qu'il fut écrasé par ce père majuscule qui s'installa avec armes et bagages dans les pages du grand cahier que le fils avait toujours avec lui. On raconte que les drogues faillirent bien l'emporter tout près d'une révélation qu'il voulait faire partager à tous. Que dans l'ivresse, aux confins de l'aube, il n'était pas toujours ridicule. Dans le rêve du fils, le père et le fils sont face à face. Le fils arbore un sourire visqueux. Il bégait sous les yeux outrés du père. Le fils a 23 ans, il n'a jamais couché avec une femme, il va devenir un grand écrivain, il va leur montrer, ils sauront, ils s'inclineront. Il envoie à des revues des poèmes d'amour désastreux à Cassel, à Munich, à Hanovre, à Kiel, à Berlin, sans jamais omettre de joindre une enveloppe affranchie pour le retour. Les refus polis ne l'arrêtent pas. Il exulte sous les pierres. Il sait, ils ne savent pas. Pour échapper à l'ombre du père, célèbre poète dans les années 30 et 40, honni depuis la chute du Reich, Bernhard signe ce pseudonyme. Ne pleurez pas ce petit garçon à culotte courte qui vous regarde avec des yeux de chien battu. Il serait sans nul doute devenu méchant avec l'âge. Il aurait, cet oracle, trahi la cause de ses pères. Avili, j'en suis sûr, sa bouche dans une de ces foulières sutes qui veulent faire la loi au pays. Sous prétexte de saine révolte, il aurait bafoué père et mère. On l'aurait vu sur les parvis haranguer les passants et prêcher l'anarchie. Il aurait appris par cœur des livres aux titres incompréhensibles. Sang de chat dans ce garçon, sang traître. Ne vous laissez pas apitoyer par ces jérémiades. S'il avait survécu aux terribles corrections du père, il serait devenu Bernhard Vesper, écrivain raté, suicidé précoce, érotomane sans humour. Ophélie mal, made in Germany. N'écoutez pas les cris du jeune garçon dans la cour de la ferme. Laissez la main du père lui donner le coup de trop sur la nuque, qu'il meure. Oubliez-le. On le voit sur une photo à 19 ans à côté de son père pour le 75e anniversaire de celui-ci en 1957. Il est plus grand que l'ennemi, la tête légèrement inclinée, les mains invisibles nouées dans le dos, sage et glabre, dans un costume de flanelle claire beaucoup trop ample et qui l'annule. Le père est splendide, ne regrette rien. De quoi parlez-vous ? Ses mains dignement tavelées sous les boutons de manchette. Un parc s'élargit autour d'eux, plein de silence ouaté et de sperme perdu. Gilet assorti, ouvert sur une cravate en soie crème, Bernward sait qu'il est ridicule. Tantôt Ophélie, tantôt Hamlet, double ratage. Le supplice est sûr. Certes, Will Vesper est un père un peu encombrant pour un adolescent gauche à la fin des années 50, quand il découvre qu'il ne fera aucun pas dans l'autre monde s'il ne se greffe d'abord la langue de cet autre monde. Il est empêtré dans les arguties du père qui tombent sur les faits comme de la neige mouillée et finissent par adoucir les arêtes les plus tranchantes, baignées d'un clair-obscur délicat la pire abjection. Que reste-t-il du discours officiel tenu très officiellement par Will Vesper un certain 10 mai 1933 lors de l'autodafé de Dresde, trois mois après l'arrivée des nazis au pouvoir ? Que reste-t-il des mots et des gestes après presque 30 ans de retouches infimes, contestations de détails, mises en perspective, révélations inouïes ignorées de tous ? Le père, sans doute, a jeté au feu les livres de Dublin et des Mann, père, frère, fils et filles, pour en protéger d'autres, moins connus. Mais qui as-tu protégé ? D'autres qui auraient échappé miraculeusement à la censure. Le père, incontestablement, fut héroïque ce jour-là, prêt à prendre sur lui l'opprobre du geste pour éviter que les plus enragés ne saccagent tout. Mais que restait-il à saccager ? Le père, tout compte fait, n'est rien de moins que la conscience malheureuse du pays en perdition et, à ce titre, attend toujours la décoration que lui doit le nouveau régime. Où est ton frère Abel ? Le père ne sait pas. Il était à la guerre. Il y a bien pire qu'une punition du père. Pour un motif obscur, le père peut décider de ne plus voir le fils. À la table du déjeuner, il devient transparent. Le regard du père traverse son visage sans ciller. Il ne se souvient d'aucune faute. Il sait que le père ne se trompe jamais. La nuit, en hurlant, il ramasse des vêtements dans un sac et il quitte la maison. C'est l'exode, le désert, il est un peuple en marche. Il va s'accroupir sous un arbre, près du porche. Personne ne vient le chercher, aucune fenêtre ne s'allume. Rien n'entame le silence. Il serre ses gémissements contre sa poitrine, il rentre au petit matin. « Arrête ces bêtises, lui dit le père, tu es grotesque. » Sa parole le sauve. Tout ce qui descend du père jusqu'à lui, serait-ce des crachats ou des coups, l'élève. Quel ciel avait surgi de la nuit du 10 mai 1933 au-dessus du pays, le jour de l'autodafé, après plusieurs semaines de campagne dans les universités pour en chasser l'esprit non-allemand ? Était-ce un bleu ivoire, un bleu cassant comme de la porcelaine, un bleu victorieux qui célébrait la résurrection nationale ? Où avais-tu dormi la nuit du 9 au 10 mai ? Avais-tu dormi dans des draps frais, repassés, parfumés ? Embrassais-tu ma mère le matin du 10 mai 1933 en écoutant le discours de Joseph Goebbels à la radio, un Brötchen trempé de café à la main ? En embrassais-tu une autre ? Pourquoi avais-tu été relégué à Dresde ? Pourquoi n'avais-tu eu l'honneur de Berlin, une place auprès du ministre de la propagande, donc Goebbels, âgé de tout juste 37 ans, docteur en philosophie de 15 ans ton cadet, passionné de Hölderlin et poète sensible à 16 heures ? Était-ce une relégation ou, au contraire, le moyen de mieux briller en Saxe au milieu des seconds couteaux ? Le fils, devenu adulte, mais fils, toujours, passionnément, fils. Fils jusqu'au bout des ongles et la pointe de la langue. Le fils se souvient, il a 5 ans, en 1943. Caché derrière un appentis, il observe l'exécution des porcs dans la cour de la ferme. Il chuchote, il frémit, ivre de sa ruse. Sous la direction du père, les Polonais et les Ukrainiens, ramenés du front, tranchent les gorges nonchalamment, avec dans le regard ces pépites de joie cruelle qui caractérisent les non-ariens. Le sang gicle, on remplit des bassines, une odeur ignoble fait suffoquer. Les cadavres sont suspendus pendant la nuit pour que la viande achève de mûrir. Le fils, plein de prescience et d'empathie, devine la honte du père, qui lui cache la scène pour dissimuler la peur dans sa gorge devant les gestes accomplis sans colère. Le père est lâche, Dieu n'existe pas, tout est permis, plus rien n'est vrai. Le père déteste les chats. Les chats sont abattus dans le parc, il faut se garder de la fourberie des chats. Ils viennent d'Orient, aucun dressage ne vient à bout de leurs ruses et de leurs détours. Les chats ne trouvent leur place dans aucune communauté. Parasites dont il faut préserver nos fermes, les chats sont des asociaux, les juifs du règne animal. Le fils, plus tard, se plaira à imaginer que son père a tué un jeune chaton qu'il avait recueilli en cachette. À l'inverse, les chiens accompagnent le triomphe des Allemands. Le chien du père, Strubel, circule autour de la maison comme un inspecteur qui veille au bon ordre. Il n'est pas sournois. Il ne déchire pas les pantalons. Il ne mord pas les chevaux. Il ne cherche pas à s'introduire dans le foyer. Il ne mendie pas l'affection. Strubel est irremplaçable. Strubel traque le chat sauvage qui vient rôder au printemps. Il le piste des nuits entières avant de fondre sur lui. Il le chasse en haut d'un mélèze. Il l'aboie à toute gueule au pied du tronc. Il attend que le père abatte l'intrus à la carabine. Il se jette sur la dépouille pantelante. Il se barbouille de sang chaud. Il remue la queue près de son maître. Il vient chercher sa caresse au garrot. Il repart avec sa caresse. Avec sa caresse, Strubel est irremplaçable. Il n'est pas absolument pur, mais il a de l'âme, dit la mère, Rose Vesper. Alors, je vais lire encore deux autres extraits plus courts, donc un peu plus loin. Donc ça, c'était l'enfance, une partie de l'enfance du fils, Bernard Vesper. Donc ça part assez mal et ça se gâte et ça continue de se gâter. Et donc, on le rejoint, 70 pages plus loin. Et donc, Bernard, entre-temps, est devenu écrivain, éditeur. Tout ça sont des faits historiques. Hein. C'est un personnage historique, comme je disais tout à l'heure. Et il est le compagnon de Gudrun Enslin, qui sera plus tard la compagne d'Andreas Bader, dont le visage a recouvert les murs d'Allemagne quand elle était recherchée, quand elle était l'ennemi public numéro un. Et donc Bernard Vesper est encore le compagnon de Gudrun Enslin, qui commence à prendre le large. Et entre-temps, ils ont un fils aussi. Il s'appelle Félix. À un moment, ça allait mieux. On pouvait dire que ça allait mieux, que ça allait nettement mieux, que tout s'articulait presque parfaitement, wie die Faust aufs Auge, que Bernward était presque spontané, dans sa façon de dire bonjour, guten Tag, au téléphone. Presque agile et souple dans sa façon de dire comment ça va, wie geht's, en arrivant. Dans sa façon de prendre congé, porte-toi bien, mach's gut, de se mouvoir. On entendait au téléphone le sourire se former sur ses lèvres. On l'entendait, on le voyait. C'était très beau, c'était parfait, c'était magnifique. C'était un bon papa. On parlait de lui, ses amis. Mais qui était ce « on » Avait-il des amis? Mais oui, il semblait bien qu'il eût des amis de fraîche date, mais des amis quand même. Peut-être réussissait-il à leur parler une vraie langue emprise sur son vrai corps et qui disait ses vraies sensations au moment où il les ressentait, dans un agir communicationnel idéal et fluide et dans le respect de la loi fondamentale. Le fils, donc Bernward, se mouvait avec une facilité extraordinaire. Il allait acheter le pain sur son vélo rouge. Il saluait les voisins. Est-ce qu'il allait jusqu'à saluer les voisins sans trembler, sans pleurer? Mais oui, il semble bien que oui. Il faisait des blagues. On se souvient moins de ses blagues, mais on a des témoignages irréfutables. De jolies blagues fraîches qui n'étaient ni racistes, ni antisémites, ni nazis. Les blagues de tous les jours d'un jeune père de famille ouest-allemand qui va chercher le pain sur son vélo rouge, des blagues avec des enfants et des animaux, des blagues insoupçonnables et par n'importe quel bout qu'on les prenne. Ah, comme il était beau! Il se laissait pousser la barbe et les cheveux, le fils devenu papa à son tour, comme un gauchiste pur jus de l'époque. Il buvait du rosé sous la tonnelle, il fumait des joints, il avalait des pilules colorées, il léchait des buvards. Il portait le pantalon de flanelle et le foulard pour compléter l'uniforme de l'intellectuel de gauche critique. Il lisait Concrete, la revue d'Ulrike Meinhof. Il passait même quelques jours avec elle et Enslin à Rome. Il participait, mais à distance, à la bonne distance, avec la bonne nuance de critique subtile. Un pied dedans, un pied dehors, jamais dupe, jamais pris en défaut, ou presque. Intégralement intégré, ou presque. Car il y avait ce petit fait pas tout à fait négligeable, Gudrun n'était pas là, ou rarement. Difficile de nier que Gudrun s'absentait souvent. Il fallait bien qu'il manque quelque chose pour que tout fût accompli. Il fallait qu'il manque l'être le plus désiré, tantôt Ophélie, tantôt Hamlet. Bernward se reconnaissait dans l'un et l'autre. Il fallait qu'il manque l'être le plus désiré pour que le destin tragique du fils le rattrape, l'écrase sous 1000 tonnes de désastre bien tassé. Car tout cela n'avait de sens que pour mieux dégringoler ensuite. Le fils le savait, nous le savions tous, nous qui l'observions grimper un peu trop précipitamment, un peu trop lestement sur son vélo rouge. Nous qui voyons se tendre sur son visage un sourire un peu trop grand, nous qui savions depuis le début que tout était faux, que la déroute était imminente. Est-ce qu'il entendait des voix lui crier sa fausseté ? Quant à nous, nous ne lui avons jamais craché sa fausseté au visage, nous le tolérions parmi nous. On se demandait comment il finirait, on savait qu'on ne pouvait rien y faire. S'il se jetterait par la fenêtre, s'il avalerait les somnifères, s'il se trancherait les veines, s'il aurait le crâne défoncé par une tuile opportune, s'il se jetterait à l'eau, on attendait. Il fallait qu'il décroisse pour que croissent Enslin et Badr. C'est pas hyper évident de prendre des extraits dans le texte. Je vais lire. Il y a deux respirations au moment dans le texte, deux chapitres qui s'appellent Bruit de fond et qui font surgir comme ça toute une série comme ça de rumeurs autour de la fraction Ramée Rouge. Rumeurs qui sont évidemment déformé, exagéré, outrancière, etc. Et je vais en lire deux. Voilà. La dernière collection d'un styliste berlinois interroge subtilement, radicalement, le rapport du citoyen à notre société de l'information. On cousse sur le corps des mannequins des rouleaux où sont inscrites les dépêches d'agence qui ont ponctué l'histoire de la fraction Ramée Rouge de 1968 à 1977. Les filles sont très belles, très lointaines, habillées, déshabillées par de longues bandes de papier multicolore noircies de texte en caractère gras, reproduits sur un écran au-dessus de la scène. Une grande solennité imprègne les lieux, plongés dans un demi-jour. La numéro 1, jupe en lamé kaki, porte en bandoulière la date inaugurale, 3 avril 1968, avec deux comparses, Gudrun Enslin, ex-compagne de l'écrivain Bernhard Vesper, déjà suicidé, et Andreas Bader, ex-docteur en rien, mettent le feu à des grands magasins de Francfort. La numéro 2, blouson avec zip, menottes, bracelet en plastique, cagoule noire pailletée autour du visage, la suit de près. Le tribunal de grande instance de Francfort condamne les quatre incendiaires à 3 ans de prison. Bientôt remis en liberté, il plonge dans la clandestinité. Le public est recueilli, conscient de l'enjeu politique. Quelqu'un dit « personne n'y avait pensé », quelqu'un dit « pourquoi pas », quelqu'un dit « oui ». Fait totalement inhabituel, un seul photographe est autorisé à shooter les modèles. Suspendu par un agrégat complexe de filins, au-dessus de la scène, il est équipé d'un appareil minuscule très cher dont personne n'a réussi à distinguer la marque. Voici la numéro 3 en blouson à franges cuir havane, débardeur chamois poinçonné, jupe cuir havane qui récite dans un micro le texte enroulé autour de son cou. Mai 70, Bader s'évade avec l'aide de Meinhof et Enslin, la RAF publie son acte de naissance. Les mains de la modèle virevoltent autour de son visage aseptique, ses mains sont folles, mais les phrases sortent de sa bouche sur un ton extrêmement neutre avec une grande maîtrise inexpressive. Le contraste est saisissant, des murmures parcourent les premières rangées, on entend les noms des plus vénérés cinéastes de l'avant-garde, l'inimitable X, l'inaccessible Y, le très retiré Z. Quelqu'un dit, le catalogue sera tiré à 350 exemplaires vendus aux enchères. Quelqu'un dit, pourquoi pas. La numéro 4 est entièrement nue sous la bande de papier très étroite qui enveloppe son cou, descend au milieu de ses seins et sur son ventre jusqu'à son sexe et enfonce sur la, suit l'arrêt de ses fesses et remonte dans son dos. Le texte défile sur l'écran. Été 70, Bader et Enslin suivent un entraînement dans un camp jordanien de l'OLP. On regarde les mains, relâchées cette fois, paumes légèrement ouvertes vers le public, souveraines. On regarde les yeux qui passent au-dessus des têtes sans ciller, mais on ne voit pas ses seins, son cul, sa bouche. Le corps est déréalisé par le texte, personne ne bande, le texte dévore le corps. Le public choisit et recueilli, conscient de l'enjeu politique. Le public participe à un événement conceptuel et se prépare à échanger des conversations intéressantes entre personnes conscientes de l'enjeu politique. La numéro 5 s'avance en robe de mariée. Elle brandit une pancarte au-dessus de sa tête. Mai 72, une vague d'attentats de la RAF vise les intérêts militaires américains en RFA. Outrageusement maquillée, la mariée se plante devant le photographe, descendu à sa hauteur, jette la pancarte sur le sol et s'offre au crépitement du flash, les mains sur les hanches, fière et canaille, presque obscène. Quelqu'un dit « pourquoi pas ?» Quelqu'un dit « oui, l'enjeu politique est à son comble. » Puis je vais lire un dernier extrait, donc toujours dans cette série de bruits, de rumeurs. Un jeudi soir, Christine ou Sylvie, appelons-la Sarah, se rend dans son bar préféré chez Jeannette, rue du Faubourg-Saint-Denis, à Paris. Elle est abordée par un jeune homme mystérieux, Alain Delon dans Le Samouraï de Melville, mais en mieux, qui cache des yeux de fauve derrière ses lunettes noires. Sarah, ou Odile, est interloquée, troublée, curieuse, attirée, distante, émue, sceptique, brûlante. Marie bredouille une réponse au jeune homme ténébreux qui lui demande ce qu'elle pense de la social-démocratie à la française et de la guerre en Afghanistan, en substance. Mais voici qu'une BMW noire aux vitres teintées, l'authentique Bader-Meinhof-Wagen, la voiture des terroristes ouest-allemands, remonte à toute allure la rue pleine de badauds et fait crisser ses pneus sur le trottoir à hauteur de la boutique d'agriculture urbaine. Deux hommes surgissent terriblement de la voiture et emportent Aurore horriblement. Sophie n'a pas le temps de se débattre. Quatre bras d'hommes forts la saisissent déjà de tous côtés. On lui bande les yeux, on la baïonne, elle n'a pas le temps de réagir, elle émet des petits hoquets ou pas, c'est elle qui décide. Quelques minutes plus tard, ligotée, Emmanuel ouvre les yeux sur le jeune homme magnifique, Bader Brando Delon, qui lui apporte une coupe de champagne dans une suite 4 étoiles d'un hôtel à proximité. Julie va vivre la soirée la plus folle de sa vie. Pravda Meinhof, agence de conseil pour une innovation sociétale ludique, propose une idée cadeau originale dont votre ami se souviendra toute sa vie. Vous voulez la surprendre, la bouleverser ? Faites-lui découvrir l'expérience d'un enlèvement par des terroristes qui se révéleront tous plus beaux gosses les uns que les autres et la feront délicieusement frissonner. Comptez 4 à 6 000 euros selon les options.
Lire ses propres textes, c'est une joie ou une souffrance ?
Ça va. Ça se passe. Non, ça va, ouais.
On a l'impression de dire un texte de quelqu'un d'autre ou de se réapproprier sa propre langue ?
Non, j'ai l'impression, comme c'est des textes, qui sont beaucoup travaillés pour l'oralité, du coup c'est assez naturel pour moi de les lire tout haut. Ouais.
Quand vous dites qu'ils sont travaillés pour l'oralité, c'est-à-dire que quand vous écrivez, vous parlez ? Vous écrivez à haute voix ?
Oui, pas mal, c'est... Il y a des recherches de scansions, de prosodie, oui, carrément. Ouais.
D'accord. Vous écrivez en même temps la musique du texte ?
Oui, en quelque sorte, oui. Mm-hmm. D'accord.
Si les bouches ferment, c'est une nouvelle version augmentée de votre premier ouvrage qui était la première partie d'une trilogie allemande. Mm-hmm. Où déjà, vous exploriez la bande à Bader. Ensuite, avec Vous n'étiez pas là, c'était la figure de Nico. Mm-hmm. Et dans Fassbinder, le mal en fanfare, c'était Fassbinder.
Voilà.
C'est un cycle qu'on appelle de vie imaginaire. Pourquoi mm-hmm. vous avez besoin d'emprunter comme ça, c'est la vie de ces gens-là. Qu'est-ce que vous empruntez pour développer votre propre imaginaire à travers eux ?
Ben c'est pas vraiment on n'écrit pas ce qu'on veut, donc il y a une c'est pas tout à fait délibéré. Il se trouve que Fassbinder d'abord, et puis ensuite via Fassbinder, la fraction en mer rouge, Nico ensuite ont été comme ça des déclencheurs de textes, des déclencheurs de phrases. Donc c'est pas quelque chose de... Je me suis pas posé la question de chercher un personnage sur lequel j'allais écrire. Les rencontres comme ça se sont faites.
C'est-à-dire trouver des personnages pour s'écrire soi-même ?
Oui, dans la mesure où on s'écrit toujours soi-même, mais comment dire À chaque fois, ce qui m'importait dans Fassbinder, dans le personnage de Vesper, qui est quand même le personnage principal, plus que Bader et Henslin, qui sont finalement à la marge, ce qui m'importait chez Nico, là, donc, qui est adapté ce soir, c'est que c'était des corps qui, de façon assez emblématique, incarnaient une époque, incarnaient des enjeux politiques, incarnaient des tensions. dans lesquelles pouvait, sur lesquelles mon écriture pouvait venir se greffer. Mais encore une fois, c'est pas des choses très délibérées. L'unité s'est faite après coup. J'avais pas prévu de faire une trilogie du tout sur des personnages allemands. Donc tout ça s'est passé de façon assez intuitive, assez viscérale quand même aussi. Mais encore une fois, le déclencheur a beaucoup été Fassbinder parce que j'aime pas forcément tout le cinéma de Fassbinder, même si c'est quand même globalement j'aime beaucoup son cinéma, bien sûr. Mais je trouve que c'est des Fassbinder, Mohamed Ali peut-être aussi, du coup, c'est des personnages qui portent, quoi. C'est des personnages qui...
C'est des personnages qui sont...
qui sont des grands vivants aussi.
Ils sont aussi des artistes qui tentent de s'écrire, qui sont en tout cas qui sont des gens qui se posent la question de leur devenir, et à travers l'écriture, et l'écriture est au cœur de votre écriture, si je peux me permettre.
dans quel sens? Dans celui-ci ou...
Dans celui-ci en particulier, oui.
Ah bah oui, dans celui-ci, oui, puisque le personnage principal est un écrivain en devenir. Donc, après, c'est des motifs. Moi, il est évident que dès qu'on aborde, dès qu'on décrit dans un livre un personnage de jeune écrivain, on est sur un motif, sur un topos, qui est celui du jeune écrivain qu'on trouve beaucoup chez Balzac, évidemment, la figure du jeune poète, quoi. Donc avec sa naïveté, sa radicalité, sa violence, sa pulsion suicidaire, etc. Donc le livre se nourrit aussi de toute une série comme ça de jeunes hommes qui ont parcouru la littérature. Enfin, Hamlet est un autre jeune homme exemplaire, voilà, qui avait un petit problème avec son papa, comme on sait. Et de la même façon, il se trouve que Vesper, voilà, est un personnage particulièrement écrasé par l'empreinte des pères. Mais à chaque fois, c'est il y a quelques faits historiques assez ténus. Dans le cas de Vesper, finalement, c'est assez peu de choses. C'est un personnage historique. Voilà, on connaît. Il a écrit un livre qui s'appelle Die Reise, le voyage, qui a été traduit en français, qui est plus disponible, mais qui est un livre vraiment pas mal, qui a été même un best-seller en Allemagne dans les années 70. Un livre qui est paru après son suicide. Hein, il s'est suicidé à l'âge de 31 ans, je crois. Et donc, il y a quelques faits comme ça, mais ça me suffit. Moi, je vais pas. Comment dire, je cherche pas du tout une. Ce ne sont pas des livres, finalement, documentaires, à proprement parler. Je prends quelques faits historiques et là-dessus, je m'engouffre là-dedans pour déployer l'écriture.
À la manière de Thomas Bernhardt, quand il écrit Naufragé à propos de Glenn Gould.
Ah oui, complètement. Ça, c'est vrai que, effectivement, je ne l'ai pas relu depuis longtemps, mais ce qu'a fait Bernhardt sur Glenn Gould, oui, ça a été très grande... assez important, oui. C'est vrai que c'est pas suffisamment cité comme exemple de vie imaginaire tout à fait exemplaire, du coup, puisque là, Bernhardt circule de façon totalement aérienne par rapport aux faits historiques, enfin, c'est-à-dire qu'ils sont contre-fous complètement. Et voilà, il ne garde juste que le motif de Gould comme génie spontané, génie romantique. Il y a une vraie facilité d'ailleurs dans le texte de Bernhardt, mais c'est un texte prodigieux, hein, et que rien n'arrête. Hein, donc c'est une espèce de force qui va, comme ça, comme Hernani. Et c'est le cas, disons, Fassbinder, j'ai repris ce motif-là, effectivement, de la force qui va, c'est très présent dans le bouquin sur Fassbinder. Ouais.
Et quand je parle de la figure de l'écrivain, qui est certes, dans ce livre-là, c'est un jeune écrivain, mais dans tous les livres, il y a aussi la question de l'écriture, de comment on s'écrit, c'est-à-dire... on retrouve ça aussi chez Nico.
C'est une écriture, voilà, moi j'ai pas énormément de distance à ce que je fais, mais en tout cas qui va vraiment chercher dans les affects. Et c'est une écriture qui cherche plus l'expression que la narration. Donc, c'est quand même globalement un récit, mais c'est vrai que ce qui m'intéresse, c'est vraiment la presque un niveau moléculaire, niveau vraiment de comment se forgent des affects, des tensions. Une grosse partie du roman français contemporain m'indiffère totalement. Enfin, j'ai l'impression qu'on ne fait pas le même travail parce que le dialogue ou passe-moi le sel ou ça va, t'as appelé maman, je ne peux pas. Dans le cinéma français, je ne peux pas non plus d'ailleurs. Mais
vous démarquez aussi beaucoup de l'autofiction
Ça, c'est compliqué, hein, parce que c'est peut-être des autoportraits. Hein. Des autoportraits en boxeur noir, en cinéaste cocaïnomane chargé jusqu'aux yeux, je ne sais pas. Je ne sais pas.
Là, un de vos textes est donc va jouer au théâtre. C'est Laurence de la Fuente qui a fait l'adaptation. Vous-même, est-ce que vous avez la tentation du théâtre ?
Oui, tout à fait. Ben, on en parlait tout à l'heure. Je pense que c'est des textes, enfin les différents romans qui ont été publiés là, ces dernières années, à mon sens, se prêtent à l'adaptation parce qu'il y a souvent un dispositif, peut-être moins dans celui-là, mais il y a souvent un dispositif de l'apostrophe, donc de la parole qui est jetée comme ça. C'est vraiment très net dans le livre sur Nico et dans les livres sur Mohamed Ali. Donc déjà, il y avait effectivement... Et puis moi, j'ai été aussi très marqué par des écritures théâtrales, hein, que ce soit Coltès ou Heiner Müller, hein, pour en citer deux, mais enfin, pour en citer Claudel, etc. Mais... Donc des phrases, des phrasés où le texte vraiment résonne, quoi, où il y a vraiment, enfin, chez Claudel, par exemple, mais chez Coltès aussi, normalement, il y a vraiment une jubilation verbale, quoi, de l'image aussi, une création permanente de l'image, et puis une scansion, bon. Donc déjà, moi, j'ai été pas mal influencé, ou je lis toujours, je me nourris beaucoup d'écriture théâtrale. Et puis, par ailleurs, là, plus récemment, donc il y a eu le travail de Laurence sur Nico. Et il y a une troupe de théâtre qui s'appelle Le Mentor Volontaire qui m'a commandé une pièce là, qui a été terminée, qui est en cours de production. Et puis je travaille aussi, comme je te disais tout à l'heure, je travaille aussi avec un collectif qui s'appelle The Quark, où donc j'écris là, du coup, c'est plus une écriture de plateau, comme on dit, mais enfin, c'est un peu entre les deux. Donc du coup, oui, je vais de plus en plus vers le théâtre, parce que j'y expérimente, j'ai la sensation d'une plus grande liberté que dans le champ du roman. Ça tient sans doute au fait que je connais encore mal le théâtre, mais...
Est-ce qu'il y a les mêmes mouvements quand vous écrivez du théâtre ? C'est-à-dire, est-ce que vous avez besoin de vous remparer aussi de faits historiques ou de personnages et de travailler un imaginaire autour de ça ? Ou pour le coup, l'écriture théâtrale, vous avez placé un peu ailleurs, à côté ? Vous avez mis à côté de ce que vous écrivez pour le roman ?
Y a différents... Enfin, ça dépend à chaque fois des projets, quoi. Pour le mentor volontaire, c'était au départ une commande sur un sujet pas évident, qui est la prise du pouvoir des nazis. Donc on est sur un sujet historique. Et moi, j'ai emmené ça plutôt vers une parabole qui serait vraiment... C'est difficile d'en parler en deux mots, mais enfin, bon, je m'y risque. Parabole, le mot est peut-être un peu prétentieux. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas une pièce historique du tout. Ça s'appelle La Mèche, à cause de la fameuse mèche de qui vous savez. Mais à part ce petit fait-là, si vous voulez, j'ai pris ce pari-là d'un espèce de d'isoler ou de faire résonner bon, beaucoup dans un univers contemporain ce qui serait des traits récurrents du fascisme, quoi, si vous voulez. Et c'est sûr que la période, la séquence politique dans laquelle on est en France, le permet particulièrement. Voilà, donc c'est pas du tout pour dire qu'on est dans les années 30, hein, mais c'est pour faire la pièce a fait entendre aussi des discours contemporains, des ritournelles contemporaines, des glissements de sens contemporains. Et donc, du coup, n'est pas à proprement parler une pièce historique. Donc, ça, pour ça, alors, pour répondre à votre question, pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose d'assez inédit, du coup. Et en plus, c'est une pièce qui fait exister 10 personnages, alors que la plupart de mes romans sont vraiment centrés sur un personnage, souvent. Donc, ça, du coup, ça m'a vraiment emmené ailleurs. Et voilà, un des projets. Et l'autre projet qui est encore en cours, enfin, qui est pas mal avancé, mais. Avec De Quark, là, c'est très différent parce que c'est vraiment un collectif où il n'y a pas de metteur en scène. Donc ça, c'est très intéressant, très épuisant aussi, mais c'est très chouette. Enfin, en tout cas, c'est très inédit pour moi. Et du coup, le texte fonctionne beaucoup en réaction à des situations de jeu. Donc là aussi, c'est tout à fait un autre type d'écriture que dans le roman. Dans le cas du projet de Quark, c'est au départ, on revisite, et on a fini par effacer totalement d'ailleurs, on revisite un roman de Roberto Bolaño qui s'appelle 2666. Et le projet s'appelle Barbecue, et finalement, si vous voulez, c'est un projet qui avance beaucoup par, et moi j'ai vraiment l'esprit d'escalier, d'association libre, c'est un projet qui avance beaucoup par association libre, ça me plaît beaucoup. Je vais vous donner un exemple tout bête. Donc le Mexique, Roberto Bolaño, c'est ce qu'on appelle le féminicide, ce sont ces femmes assassinées, violées au nord du Mexique, notamment à Ciudad Juárez. Bon. Donc on est dans ce thème-là. En face de Ciudad Juárez, si je ne dis pas de bêtises, c'est El Paso, je ne suis pas sûr, j'ai un petit doute, enfin oui je crois, il y a une ville américaine en face qui est la ville où Marilyn et Miller ont divorcé, où Houston a filmé The Misfits. Et on va commencer à s'emparer de ça, et à la fin, moi j'écris une longue apostrophe de Miller à Marilyn. Donc on est vraiment dans de la métonymie, quoi, quasiment. C'est des déplacements comme ça, qui sont presque de l'ordre du rêve, enfin, qui sont Ciudad Juárez, donc la ville en face. Mais en même temps, ça a fait vraiment sens. Ciudad Juárez, l'horreur mexicaine est très, évidemment, la conséquence de cette situation de frontière avec les États-Unis. Mais je ne sais pas si je suis clair, mais oui, ça procède vraiment comme ça, par déplacement et par association libre. Donc, là aussi, c'est complètement un autre type d'écriture. Et puis, c'est des textes qui sont, comment on dit, c'est plus une écriture de plateau, dans le sens où les textes sont quand même réécrits un petit peu en fonction du travail avec le comédien. Donc, pour répondre globalement à votre question, oui, ça m'emmène complètement dans d'autres territoires et beaucoup moins dans des... Enfin, je suis plus dans des vies imaginaires, du coup, ouais. Même s'il y a toujours ce détour par des motifs, par des thèmes, oui, puisque là, je réinvestis Miller, Marilyn, mais de façon complètement délirante, enfin, de façon qui n'a plus rien à voir avec le Miller authentique et la Marilyn authentique. Donc, voilà, tout ça s'entrechoque et se mêle.
J'aimerais qu'on aborde la question de l'Allemagne, parce que outre des raisons biographiques, hein, qui vous ont amené en Allemagne, ou le fait que vous soyez traducteur d'allemand et que vous dirigez aussi une revue franco-allemande, l'Allemagne parcourt singulièrement votre œuvre. Et je voudrais faire le lien avec la question de l'écriture, c'est-à-dire que et de l'héritage. C'est comment on s'empare de sa langue, comment on s'empare de son écriture, comment on peut se réinventer à travers cet héritage-là. Et l'héritage de la nation allemande est assez lourd.
Et comment moi je me réinvente à partir de ça? Bon, moi déjà je suis pas allemand, donc j'ai quand même cet héritage-là pèse moins, enfin ne pèse pas sur moi comme il peut peser, j'imagine. C'est une question très compliquée, hein, sur un Allemand de mon âge aujourd'hui. Bon.
Enfin, écrire à travers l'Allemagne, c'est aussi se poser la question de comment écrire. Comment écrire aujourd'hui sans
pour... Oui, alors c'est aussi une série de hasards, hein, de rencontres. Il se trouve que j'ai... Entre 20 et 30 ans, j'ai vécu à peu près 7 ans en Allemagne. Donc mes objets étaient les objets que j'avais sous les yeux, les influences, étaient allemands. Donc je me suis emparé de ça. Après, de façon plus spécifique à l'écriture, il est évident que le détour par la langue étrangère, le fait de s'incorporer une langue étrangère, ce qui n'était pas du tout un truc évident pour moi, parce que ce n'est pas une langue très facile, comme on sait. Enfin, puis je suis pas spécialement doué en langue, donc ça a quand même mis un peu de temps avant que je la parle bien, cette langue. Tout ce travail d'incorporation, etc., physique, évidemment, opère des remises en cause, des effets de sidération, d'étonnement sur sa propre langue. On navigue très vite... Quand on vit longtemps dans le pays étranger, Derlin dit j'ai perdu ma langue en pays étranger, mais il est évident qu'on... la langue étrangère reste étrangère, et notre propre langue nous devient étrangère aussi, ou en tout cas on est étonné. C'est des expériences assez banales. Bon, en s'appropriant la langue étrangère, on est constamment dans des effets d'étonnement sur des choses très simples, surtout l'allemand qui agglomère beaucoup. qui est une langue agglomérante, en fait. Donc, qui forge tous les mots du quotidien, des mots très simples, sont forgés en agglomérant, en fait, des petits mots. Donc, du coup, un Allemand, pour qui c'est extrêmement naturel, bon, moi, ça, pour un non-germanophone, ce n'est pas naturel. Enfin, ce n'est pas naturel. Il a un étonnement. Il voit la composition du mot que ne voit plus un germanophone qui a grandi avec. Donc, on est toujours dans un rapport comme ça d'étonnement malgré soi, enfin d'étonnement ou d'exaspération ou d'étonnement à la langue. Et forcément, ça contamine notre propre rapport à la langue étrangère. Après, il y a des germanismes qui viennent s'introduire en allemand, qui viennent s'introduire en français. Donc, moi, je l'ai surtout noté quand je faisais de la traduction, ça. Parce qu'effectivement, j'avais hérité d'un certain nombre de germanismes sur l'emploi du passé, par exemple, j'ai un emploi du passé simple qui est un petit peu, peu limite parfois, mais c'est très intéressant ça, parce que du coup, ça vient fracasser les évidences de la langue maternelle, et ça c'est très bien pour moi. Tout ce qui remet en cause la langue maternelle est intéressant. Enfin, il y a cette fameuse formule de Deleuze, hein, devenir l'immigré de sa propre langue. Dans un texte sur Kafka, il dit ça, danser sur la corde raide, devenir l'immigré de sa propre langue. Mais il décrit vraiment ces effets d'étrangeté, quoi, qu'on expérimente ainsi. Et pour le coup, ça, oui, ça continue de me nourrir, parce que je travaille encore comme traducteur, et puis je suis souvent en Allemagne, donc. Oui, ça. Je sais que ça a lieu, mais dans le détail, je ne sais pas exactement comment ça se produit, mais c'est certain que la langue allemande vient contaminer mon français. Il y a un exemple magistral de ça, c'est Lamarche Vadel, Bernard Lamarche Vadel, qui a une langue très étrange, et qui fait vraiment, on est un peu dans un télescopage entre la langue grand siècle, type Pascal, et vraiment la langue allemande. Ça produit, je ne sais pas si vous avez lu Lamarche Vadel, c'est un exemple très très singulier de contamination par une langue étrangère, c'est très intéressant, et qui produit du coup quelque chose qui est particulièrement inédit, singulier, quoi, dans le cas de la Marche Vadel.
Ben, je vous remercie d'être venu, merci beaucoup.
Merci.